Bien, bonjour à tous. Donc, merci de m'accueillir pour ces journées César. Donc, je vais vous proposer un retour d'expérience sur la protection et la pérennisation du patrimoine scientifique et technique d'un laboratoire de recherche du CNRS, à savoir le CERMEV. Avant de rentrer plus à même dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter le contexte du laboratoire. Ensuite, nous verrons comment on a essayé de gérer les flux de données et essayer de les protéger. Ceci nous a conduit ensuite à l'étape de la pérennisation des données scientifiques. On va le voir, c'est une étape qui ne peut se faire qu'avec l'intégration de l'humain. Et pour cela, ça nous conduit sur une autre partie qui va être la sensibilisation et la formation des personnels aux problématiques de sécurité. Pour terminer sur des perspectives d'évolution. Donc le contexte, le CERMAV, donc c'est le Centre d'études et de recherche macromolécules végétales. C'est un laboratoire leader dans les glycosciences. C'est une unité propre du CNRS qui est localisée sur le campus universitaire de Grenoble et qui comporte un effectif moyen d'environ 120 personnes. Le service système d'information, dont je suis le responsable, est composé de trois personnes, dont un apprenti. Ce service, il s'appuie sur six correspondants informatiques qui sont répartis dans chacune des équipes de recherche. Tout ceci, ça représente environ 200 ordinateurs, principalement sous Windows. Ça intègre évidemment les appareils scientifiques, hein, tout ce qui permet l'acquisition de données de recherche. Et puis, une trentaine de serveurs, dont certains en DMZ, hein, puisqu'on héberge notre propre site web, nos serveurs mail, etc. Donc le CERMAV, par ses dimensions, ça peut ressembler un peu à une PME, c'est une petite entité. Ce qui le caractérise, c'est que son système d'information, on est autonome sur ces aspects-là, et il est placé sous la responsabilité du directeur de l'unité. Ce qui est un peu une particularité, c'est le personnel, donc on a des chercheurs, qui eux ont besoin d'interagir avec le monde extérieur et avec d'autres chercheurs à l'extérieur et échanger des données. Donc, comment ça se concrétise? Pour le service système d'information, l'objectif, c'est essayer de protéger les données contre des dommages accidentels ou malveillants. Donc, pour cela, on va agir sur les flux de données et leur gestion, sur la pérennisation des données et sur la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes règles d'hygiène informatique et aussi à la façon de structurer les données. Donc, voyons maintenant la gestion des flux. Alors, avant de commencer, il y a plusieurs postulats, plusieurs items de départ, quoi. Les règles de filtrage basées sur le triptyque adresse IP, numéro de port et protocole, c'est dépassé. Ça marche plus, on n'arrive plus à faire des choses correctes avec ça. Une autre constatation, c'est l'explosion de l'offre de cloud public, accessible, infini. Voilà, ça c'est un problème quotidien. Et un problème pour les services systèmes, enfin les services informatiques en général, c'est d'essayer de proposer des services aussi attractifs et aussi efficaces que ceux que peuvent proposer les GAFA, par exemple. Donc, au niveau du CERMAV, qu'est-ce qu'on a fait? La première étape, ça a été d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur notre réseau en installant des sondes de détection d'intrusion. Alors, j'avais assisté ici en 2014 à une présentation du logiciel Suricata et on a décidé de l'appliquer chez nous. Ça nous a permis de mettre en évidence une utilisation assez importante des solutions de cloud public à l'extérieur. Donc, c'est ce qui est un peu moyen pour les données scientifiques. Donc, on s'est dit, il y a un besoin, donc on va essayer de déployer notre propre solution. Donc, pour cela, on a installé le logiciel OwnCloud qui permet d'héberger notre propre solution de stockage. Et malgré tout, après en réanalysant de nouveau notre trafic, on s'est rendu compte que les personnes continuaient à utiliser les clouds extérieurs. Donc, on a décidé de changer de stratégie, d'être un peu plus coercitif, en essayant d'interdire l'accès à ces clouds. Le problème, c'est que ça représente une masse colossale d'adresses IP à interdire, ce qui est quasiment impossible. Donc, la première étape pour essayer d'y arriver, c'est on a changé de pare-feu. On a essayé de passer à un pare-feu de nouvelle génération qui travaille au niveau applicatif. Donc c'était un modèle de chez Palo Alto. Palo Alto, ils avaient des pare-feux qui étaient certifiés par l'ANSI. C'est un peu ce qui a fait qu'on les a choisis. Et le fait de pouvoir travailler au niveau pardon, le fait de travailler au niveau application, ça permet, par exemple, d'autoriser la consultation de Facebook, mais on ne peut pas publier. Ou bien d'interdire l'accès aux différents services de messagerie en ligne, tels Gmail. Ou encore d'être plus fin au niveau des règles de filtrage et de plus se cantonner à définir une règle pour une adresse IP ou un poste informatique, mais l'attacher à un utilisateur. Ensuite, on a travaillé au niveau légitimité d'accès au réseau, en s'appuyant sur le standard 802.1x, qui permet d'être sûr que les périphériques qui accèdent au réseau et qui accèdent aux données sensibles du laboratoire sont connues de notre entité. Ça permet aussi de placer dans différents VLAN le matériel en fonction de son besoin. Par exemple, les postes d'instrumentation scientifique vont être dans un VLAN dédié qui n'aura pas accès à Internet. Un autre élément qu'il a fallu aussi sécuriser, c'est les copieurs multifonctions, qui eux permettent de facilement exfiltrer des données juste en faisant un petit scan. Donc on a limité les possibilités de ces appareils à envoyer uniquement des scans vers les boîtes mail du CERMAV et rien d'autre. Et on les a aussi complètement isolés du reste du réseau et évidemment d'Internet. Donc maintenant qu'on a réussi à peu près à contrôler les flux de données, voyons comment pérenniser les données. Donc pourquoi faire cela ? Eh bien, outre les actions accidentelles des utilisateurs, on peut avoir évidemment des dommages malveillants sur les données qui peuvent conduire à leur destruction totale. Et ça peut avoir vraiment un impact sur la production scientifique, puisque on peut avoir besoin d'avoir accès à des données d'acquisition quelques années après avoir publié un article pour en vérifier la véracité ou pour refaire l'expérience. Donc là, au niveau du service système d'information, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit qu'il faut faire l'acquisition de matériel qui permette de sauvegarder l'intégralité du volume de données du CERMAV. Alors, on est une petite entité, on a un petit volume de données, donc une librairie LTO6 avec 9 emplacements, c'était suffisant, mais l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui était autonome et qui ne nécessitait pas d'intervention humaine pour remplacer les cartouches lors des sauvegardes. Ensuite, on a utilisé un logiciel pour piloter tout ça, donc c'est le logiciel open source Bacula, qu'on utilisait déjà au préalable et qui nous donne entièrement satisfaction, que ce soit pour le pilotage du robot que pour la gestion des sauvegardes. Ensuite, nous avons défini un plan de sauvegarde. On essaie de garantir une durée de rétention de 3 mois pour les données courantes et d'une année pour l'archivage. Et évidemment, comme tout plan de sauvegarde, il est essentiel de tester régulièrement qu'elle fonctionne et de tenter de restaurer des données. Au niveau utilisateur, là aussi on a demandé un effort à chacun dans la distinction entre les données personnelles et les données de travail, qu'elles soient scientifiques, techniques ou administratives. Pour cela, on a mis à la disposition de chaque utilisateur de façon automatique un répertoire perso et un répertoire CERMAV qui est censé contenir les données de recherche ou techniques. Ce dossier, il est automatiquement répliqué vers un serveur de sauvegarde qui est lui-même sauvegardé par le logiciel Bacula dont on a parlé juste avant. Un autre effort a été demandé aux utilisateurs dans la structuration des données. Alors, on leur a donné un mode opératoire dans le cadre de notre démarche qualité pour classer les données dans cet espace-là, pour y avoir un accès plus facile par la suite. Donc maintenant, on a vu qu'il fallait intégrer l'humain dans les aspects. Voyons un peu plus avant ce qu'on a fait. Alors, l'ANSSI, dans ses guides d'hygiène, d'hygiène informatique, indique que l'utilisateur doit être intégré dans toutes les démarches de sécurité, il doit faire partie, ça doit être un maillon de la chaîne de sécurité. Et puisqu'on regarde aujourd'hui, vu l'actualité, la plupart des problèmes de sécurité, des incidents de sécurité informatique, ils se situent au niveau utilisateur. C'est lui qui est la cible. Donc comment faire ? Donc nous, au niveau du service système d'information, on sensibilise les nouveaux entrants, on organise des sessions pour leur donner les bonnes pratiques, pas faire d'eux des experts en informatique, mais pour que le jour où ils sont confrontés à une situation problématique, ils aient les bons réflexes. Donc ça représente environ 10 sessions par an. Et puis, pour le reste du personnel, une à deux fois par an, au cours d'assemblée générale, on essaie de faire le focus sur un point particulier de sécurité, soit en fonction de l'actualité, soit en fonction des besoins, ou nous faisons intervenir des acteurs extérieurs, tels le RSSI du CNRS, ou ceux de l'Université Grenoble-Alpes, ou encore la DGSI que nous avons fait intervenir sur des aspects sécurisation du patrimoine scientifique. Là aussi, on intervient, c'est sur la capacité à traduire en langage utilisateur des alertes de sécurité qu'on pourrait recevoir des certes auxquelles on est abonné, et de leur donner les bonnes pratiques à suivre et avoir les bons réflexes. Là encore une fois, par exemple, en cas d'infection de virus, avoir le réflexe de débrancher son ordinateur du réseau. Mais encore le plus efficace, c'est un exercice. C'est comme on fait des exercices d'évacuation incendie. Faire des exercices de sécurité informatique, ça me paraît être un point essentiel. Et c'est ce que j'ai fait cette année au mois de mai. J'ai fait une campagne de spear phishing contre nos utilisateurs. Alors le contexte, c'est chaque année, le CNRS, pour ses agents, fait une campagne de promotion interne qui se base sur un site web dans lequel chaque agent documente son dossier de carrière. Quelques années auparavant, on avait reçu une alerte comme quoi le domaine crns.fr avait été déposé. Je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée d'utiliser ce nom de domaine-là pour conduire cette attaque. Donc, je l'ai déclaré au niveau de nos serveurs DNS. J'ai fait un clone du site officiel de la campagne de promotion interne. Et puis, j'ai utilisé le logiciel Social Engineering Toolkit pour justement conduire cette attaque et tester les vulnérabilités des navigateurs. Donc, comment ça s'est passé? Ensuite, j'ai envoyé un email qui reprenait l'aspect des emails habituels envoyés pour cette campagne-là, en mettant bien sûr un lien vers le faux site. Là, j'ai été gentil au niveau de l'URL. Hein, l'URL, elle n'est pas en HTTPS. Si on regarde bien, le nom de domaine, c'est pas le bon. Et puis, un élément de pression, un peu, hein, en indiquant à l'utilisateur que s'il ne cliquait pas sur le lien, le dossier de carrière, il était supprimé dans la journée. Donc qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, quelques secondes après l'envoi du mail, j'ai sept utilisateurs qui se sont rués sur le lien et qui ont cliqué dessus. Mais dans le même temps, j'en ai cinq autres qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé un mail pour me dire « Attention, c'est bizarre, on a reçu un mail, il faudrait peut-être avertir tout le monde. » Donc c'était pas trop mal. Il faut savoir que c'est une campagne que j'ai lancée entre midi et deux, vraiment une heure où il n'y a pas de grande écoute, mais c'était déjà assez représentatif. Un point positif, c'est que les sept navigateurs qui ont été utilisés étaient par contre à jour. Donc ça veut dire qu'au moins les utilisateurs, même s'ils étaient pressés de cliquer, ils avaient quand même appliqué les mises à jour avant, donc ça c'était pas trop mal. Comment capitaliser le résultat de cet exercice? Eh bien, au cours d'une assemblée générale, j'ai refait un retour sur ce qui s'est passé, et puis ça a été l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité d'être vigilant lorsqu'on reçoit des mails, même si ceux-ci peuvent paraître légitimes. On a eu des très bons retours de la part des utilisateurs, y compris de ceux qui se sont fait avoir, qui ont dit que finalement c'était le jour à se faire avoir, c'était là et pas quand ce sera une vraie attaque. Voyons maintenant les perspectives d'évolution. Alors là, je vous ai mis une petite citation de Sun Tzu, qui est l'art de la guerre, et que je trouve qui s'applique super bien à la sécurité des SI. Hein, se connaître soi-même et connaître son ennemi, c'est un peu la garantie du succès. Ben pourtant, c'est un peu dommage parce qu'au niveau du CERMAP, à part les exercices internes, on n'a jamais été sollicité pour des exercices de plus grande ampleur. Alors que le GIP Renater, qui est le fournisseur d'accès Internet de l'environnement enseignement supérieur et recherche, fournit pour les RSSI des outils de tests de vulnérabilité. Ça me paraît être un point essentiel, hein, de connaître ses points faibles, c'est le point de départ. Bon, on va pas pleurer sur nous-mêmes, hein, il y a quand même moyen de se prendre par la main et d'essayer des choses. Il y a le moteur de recherche Shodan qui permet de tester les adresses IP publiques qu'on administre et savoir ce qu'on expose sur Internet. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, il y a le site Have I Been Pwned qui permet d'interroger différentes bases de données provenant de sites qui ont été compromis. Là, par exemple, au niveau du CERMAP, d'essayer de voir si on a des comptes CERMAP qui apparaissent dans des bases extérieures, et ce qui était le cas. Un point d'amélioration, ça pourrait être le déploiement d'un SIEM au niveau du CERMAP, histoire de combiner un peu toutes les sources de données qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est une piste d'amélioration. Mais en tout cas, du point de vue utilisateur, c'est vraiment les exercices et la sensibilisation combinés avec l'actualité riche qu'on a eue cette année au niveau incident de sécurité, qui a un effet bénéfique sur la prise de conscience générale des besoins de sécurité informatique. Donc pour terminer, je dirais que les flux de données, en tout cas le contrôle des flux de données, ça ne peut pas se limiter à des solutions techniques, que ça doit nécessiter d'impliquer tous les acteurs du SI. L'organisation des données, c'est la même chose. Ça peut être efficace que si on s'appuie sur le facteur humain, hein, et il faut qu'ils classent correctement leurs données. Toujours le facteur humain, qui lui doit être vraiment intégré dans toutes les solutions qu'on peut déployer, et qui doit vraiment être un maillon essentiel de la protection. Ça permettra aussi de garantir, enfin, de maintenir la confiance dans l'utilisation des outils numériques au fil des années à venir. Ce qui m'amène à la fin, et je vous remercie pour votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci Cyril. Donc on se tourne vers la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Là, il y en a une ici, et Eric.
Oui, merci. Bravo pour votre exposé qui couvre pas mal d'aspects de la sécurité et de façon pratique. Il y a un petit aspect où j'ai l'impression qu'il y a peut-être un trou dans la raquette qui est les fournisseurs. Vous avez cité l'exemple des Mopure, par exemple. C'est un très bon exemple. Donc, vous interdisez l'évasion vers Internet. Mais qu'en est-il de la maintenance à distance par les fournisseurs ? Parce que vous dites qu'ils ne sont pas connectés à Internet, mais c'est bien vrai ?
Alors, c'est vrai que c'est le point faible de la chose. On essaie maintenant de contractualiser ces actions-là à distance. Et par défaut, les postes d'instrumentation n'ont pas accès à Internet. Quand il y a besoin pour de la maintenance, ils l'ont, mais à ce moment-là, ils sont sortis du réseau, du réseau technique, en fait, quoi. Ils sont dans un réseau à part. On essaie de former les utilisateurs à ce qu'ils restent devant l'ordinateur quand il y a une prise de contrôle à distance. Et de façon générale, on essaie de dire que c'est mieux de ne pas le faire. Voilà. Mais il y a des cas où on n'a pas le choix.
Une autre question ? Il y en a une ici et une autre à droite.
Bonjour, je me rappelle que lorsque la réglementation sur la protection du patrimoine scientifique et technique était sortie, il y avait eu des débats dans la presse et une certaine réticence de la part des milieux des chercheurs pour des raisons, on va dire, culturelles et peut-être un peu idéologiques. Est-ce que, enfin, je ne sais pas trop où ça en est maintenant, mais est-ce que vous avez rencontré des freins comme ça dans l'adhésion finalement à votre programme ?
Alors, oui, enfin, au départ, c'est un public qui a du mal avec les contraintes, mais comme tout humain, si on explique les choses, ben on arrive à arriver à nos fins, quoi. Donc, certes, on a des personnels qui ont du mal avec ces aspects-là, mais moi, j'ai plutôt de la chance dans le laboratoire où je suis, c'est des biologistes. Du coup, c'est pas des gens qui bidouillent en informatique, c'est plutôt des utilisateurs de l'informatique de tous les jours. Donc, eux, ils veulent que ça marche, qu'ils puissent faire leur publi. Et si finalement, moi j'ai eu des retours de plusieurs chercheurs qui étaient contents lorsque j'envoyais des mails d'alerte, disant « Ah ouais, c'est bien, tu prends soin de nous, notamment avec les sondes de détection. Une fois j'ai détecté un PDF malveillant, j'ai notifié à la personne, et là, ah ouais, tu surveilles ça, c'est bien. » Donc non, si on explique qu'on n'est pas coercitif trop, ça passe. Mais de temps en temps, ça grince. Mais voilà, j'aime bien que ça grince aussi pour qu'il y ait une prise de conscience. Et en expliquant, en général, il n'y a pas eu à revenir en arrière sur ce que j'ai mis en place.
Bonjour. Je suis un petit peu curieux de savoir quand vous avez bloqué les Google Drive et l'équivalent là, qui sont souvent utilisés pour des collaborations internationales et que c'est pas, souvent l'initiative ne vient pas du chercheur du laboratoire mais vient d'un collègue américain, etc. Là. Comment ça s'est passé ? Il n'y a pas eu de levée de bouclier, les gens peuvent hurler ?
Ah bah si, forcément. Donc pareil, j'ai communiqué quand même avant en disant « Nous mettons en place des outils qui vous permettent de partager vos données. » Donc, de même, nos chercheurs ne sont pas générateurs de ces fuites vers les Google, mais effectivement, d'autres intervenants de l'extérieur, souvent, n'ont pas peut-être conscience des enjeux qu'il y a à mettre ces infos sur Google Drive et autres. J'ai créé il y a un ordinateur dans tout le laboratoire qui est dédié à ça, qui permet d'accéder à Google Drive, mais c'est le seul. Et la façon dont j'ai réussi à tout bloquer, c'est le pare-feu Palo Alto qui intègre tout un panel d'applications ou autres. Il suffit de dire c'est autorisé, c'est pas autorisé. Voilà, c'était. D'un point de vue technique, c'était facile à faire. D'un point de vue humain, c'était plus compliqué à expliquer pourquoi on le faisait. Mais maintenant, c'est plutôt bien passé. Tout le monde a compris que c'était pas une velléité d'informaticien de vouloir tout contrôler et tout verrouiller, mais qu'il y avait vraiment des problèmes. Et même le CNRS a émis des recommandations en indiquant de ne plutôt pas utiliser ces environnements gratuits.
Oui, bonjour. Merci. Félicitations pour votre présentation. J'aurais voulu avoir des informations sur la durée, éventuellement la fréquence des formations et des sensibilisations des utilisateurs.
Alors, comme je l'ai dit, c'est à chaque nouvel arrivant. Ah, c'est vrai, je ne sais pas si j'ai dit nouvel arrivant, mais enfin bon. Chaque fois qu'on a un nouveau personnel qui arrive, que ce soit un personnel permanent, un doctorant, un stagiaire, il est formé, sensibilisé à l'hygiène informatique. Après, là où c'est problématique, c'est pour ceux qui font partie des murs, qui étaient là depuis super longtemps. Et là, c'est au cours des assemblées générales, où là, on refait un petit point, ou bien quand on a fait intervenir la DGSI, on a quasiment tout le personnel qui était là et qui était curieux de savoir ce qu'il pouvait se dire. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'était... Et la durée, la durée de la formation en elle-même, 1 heure. C'est 1 heure pour... En fait, elle est combinée pour les nouveaux entrants, elle est combinée avec la formation générale en sécurité, puisqu'on a un laboratoire de recherche, il y a aussi la manipulation de produits et autres. Donc elle est combinée avec cette formation-là, qui, elle, est plus longue.
J'ai une petite question sur le facteur d'échelle et la proximité que vous avez avec vos équipes, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la clé de votre réussite, en fait, sur votre mise en œuvre. Vous avez combien d'utilisateurs? C'est une cinquantaine?
Ça peut aller jusqu'à 120 utilisateurs à peu près. Mais c'est vrai que on est une petite structure, donc c'est très facile d'être au contact de tout le monde. Il n'y a pas de personne qui ne me connaît pas, puisque forcément je suis le point de passage obligé pour créer les comptes utilisateurs. Mais de par la taille, c'est vraiment très facile de garder du lien, quoi. Mais c'est ça, la clé du succès. De toute façon, c'est de ne pas être dans une tour d'ivoire et se dire... pas que le sentiment que les utilisateurs aient l'impression que c'est... on va mettre entre guillemets, mais une connerie d'informaticien à chaque fois. Il faut vraiment que ça ait du sens, ce qu'on fait. Et là, moi, c'est vrai que c'est facile. On est une petite taille. C'est simple à faire.
Merci pour votre exposé. Il y a une question que ça soulève pour moi. Ok, pour faire du phishing, etc., dans un environnement complexe, hein, on dit souvent que gérer des chercheurs, c'est comme manager un troupeau de chats. Par rapport au risque qu'il peut y avoir aussi avec l'insertion d'une clé USB qui va contenir un petit malware, vous traitez cette problématique-là également ?
Ça fait partie de mes projets de prochain exercice, c'est de mettre des clés piégées à disposition à des endroits stratégiques et voir qui va s'en servir. Je fais de la sensibilisation sur le fait de dire qu'il faut faire attention sur les périphériques USB. On a eu des cas sur Grenoble, pas dans mon laboratoire, mais au niveau du campus universitaire, il y a eu des cas de USB killer. Donc ça a quand même fait réfléchir pas mal en disant « Ah oui, il existe des périphériques qui sont capables de détruire ». Donc c'est juste de la sensibilisation. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'action particulière sur les clés USB, sachant que au niveau du laboratoire, elles sont plutôt proscrites, parce qu'on a réussi à mettre en œuvre des systèmes de stockage qui permettent de ne pas en avoir besoin. Donc l'échange de données, ça se fait via les serveurs et pas l'utilisation de clés. Maintenant, on n'est pas derrière chaque utilisateur. On a interdit l'exécution automatique des clés, mais ça reste toujours l'humain qui est derrière. Il faut l'informer sur les risques qu'il y a, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre... question.
Nous avons une question tout en bas.
Bonjour. Qu'en est-il de la mobilité ? Est-ce que les gens travaillent à distance ? Est-ce qu'ils accèdent au SI à distance ? Comment ça marche ?
Alors, c'est en cours. Sachant que d'un point de vue formel, pour l'instant, ça n'existe pas. Au CNRS, on n'a rien qui dit qu'on peut travailler à distance. Maintenant, par contre, on a des personnels qui sont très mobiles. Donc, on a mis en place des solutions de VPN, mais qui restent très, très basiques et très limitées. En fait, on a peu d'utilisateurs qui nous ont demandé avoir besoin d'accéder à distance aux données. Voilà. Je pense que c'est l'environnement, le fait qu'on ait vraiment des biologistes qui n'ont pas besoin de lancer des manips à distance ou ce genre de truc-là, qui fait qu'on n'est pas trop confronté à ce problème-là.
Bonjour. Et je voulais savoir, est-ce que vous connaissez l'impact économique de toutes ces mesures et par rapport à l'impact qu'il pourrait avoir des attaques?
Alors, dans nos environnements, enfin, je vais prendre la réponse habituelle de nos chercheurs quand on parle de sécurité informatique, qui disent « ce que je fais n'intéresse personne ». C'est un peu dommage. Je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment d'impact économique dans nos activités, parce qu'on a des chercheurs qui travaillent sur, enfin, qui font de la recherche fondamentale qui, en soi, ne rapportent rien. Mais c'est plus un terme d'image. Si on garantit que nos données sont intègres, qu'on ne les perd pas, qu'on ne se fait pas pirater, je trouve qu'on gagne en confiance, on atteint un niveau de confiance de la part des utilisateurs et de la part des gens qui vont être en contact avec notre structure, se dire « Ah, ces gens-là font attention à ce qu'ils font, ils essaient pas ». Donc j'irai pas sur des aspects de gain, pas gain au niveau économique, je pense plus c'est en termes d'image où l'impact est là.
Bonjour. Merci pour cette présentation. En réalisant des tests d'intrusion dans des labos de recherche privés ou publics, on a constaté que vraiment le maillon faible de ces structures, c'est les réseaux de tests. Est-ce que vous avez ces problématiques-là et qu'est-ce que vous faites pour y remédier?
Je ne sais pas ce que vous entendez par réseau de tests.
Enfin, des serveurs qui ont des applicatifs pour faire des tests accessibles de tout le monde
Non, il n'y en a pas. Enfin, moi, je proscris tout ce qui est accessible de l'extérieur, c'est forcément pas du test. Si ça doit être vraiment accessible, ça sera via un VPN, mais c'est vraiment extrêmement rare qu'on ait eu ces besoins-là. Et la stratégie générale pour tout ce qui est accessible de l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas de bidouille. Si on a des serveurs qui sont sous Linux, et on utilise les packages qui sont distribués avec, il n'y a pas de voilà, on installe que des trucs qui sont sûrs, visibles de l'extérieur et que des trucs qui sont sûrs. En interne, on a des plateformes de test, que ce soit pour le service informatique ou pour le développement de sites internet. Mais tant qu'ils sont en phase de développement, ils ne sont pas accessibles de l'extérieur.
Mais pour les chercheurs aussi, c'est dissocié. Donc il n'y a pas de... Enfin, les serveurs de test pour les chercheurs ne sont pas accessibles.
Nos chercheurs, de par la nature de leurs activités, ils n'ont pas de besoin de machines de test au sens informatique, hein, je parle. Après, il y a évidemment des machines d'instrumentation, mais elles sont dans un réseau à part, elles ne sont pas accessibles, c'est vraiment à part, quoi. Mais c'est peut-être la caractéristique, le fait que ce soit des biologistes, qui fait qu'on n'a pas des bidouilleurs. Ça serait peut-être un labo de physique, ça serait complètement différent.
Une dernière question. Je ne vois pas de bras se lever. Bon, remercier Cyril. Merci beaucoup.
Merci à vous.